Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9Nartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en 1995, Petit traité des grandes vertus est un essai de philosophie morale dans lequel André Comte-Sponville examine 18 vertus, de la politesse à l'amour. Son projet ne consiste ni à bâtir un système moral définitif, ni à distribuer des préceptes. Il cherche plutôt les dispositions de caractère dont la présence accroît estime morale portée à une personne et dont absence la réduit. Le livre remet ainsi au premier plan une éthique des vertus, attentive aux conduites, aux habitudes et aux rapports concrets avec autrui. Philosophe matérialiste. Rationaliste et humaniste, Comte-Sponville dialogue avec une longue tradition, notamment Aristote, Montaigne, Spinoza, Kant et Nietzsche, sans soumettre la morale à une révélation religieuse. Sa thèse directrice est que le bien ne préexiste pas aux actes humains comme une réalité séparée, il se construit par les vertus. Accessible mais dense. Le traité propose donc une cartographie raisonnée de qualités morales nécessaires pour vivre avec davantage de justice, de lucidité, de générosité et de liberté. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une éthique des vertus plutôt que des règles abstraites, le point de départ du livre est volontairement concret. Comte-Sponville ne demande pas quelle loi universelle permettrait de résoudre chaque cas moral, mais quelle qualité rend une personne digne estime. Cette méthode déplace attention depuis obligation impersonnelle vers le caractère et la pratique. Une vertu ne vaut pas comme une idée décorative, elle désigne une disposition acquise qui oriente les actes dans la durée. Le courage, par exemple, ne se réduit pas à un geste spectaculaire. Il suppose une manière de faire face au danger, à la peur ou au risque sans les nier. La justice ne devient réelle que dans des décisions, des institutions et des relations qui respectent les droits de chacun. Le traité refuse donc une morale purement déclarative. Connaître le nom du bien ne suffit pas, car il faut encore le produire dans ses comportements. Cette perspective explique aussi la pluralité des chapitres. Aucun principe isolé ne peut épuiser la vie morale, la générosité sans prudence peut devenir inconséquente, la fidélité sans justice peut tourner au soutien aveugle, et le courage peut servir une cause injuste. Les vertus doivent ainsi être discernées, articulées et exercées. Le livre propose moins un code clos qu'un travail de jugement où chacun demeure responsable de ses choix et de la valeur qu'il donne à ses actes. Deuxièmement, de la politesse à l'amour, une progression sans hiérarchie simpliste, l'ordre des 18 vertus est significatif. Le parcours commence avec la politesse, que l'auteur présente comme une vertu modeste, presque une vertu, puis conduit vers l'amour. Cette progression ne signifie pas que les premières qualités seraient négligeables. La politesse remplit une fonction éducative et sociale, elle apprend à ne pas laisser la violence, égoïsme ou indifférence gouverner immédiatement les échanges. Elle peut précéder la vertu authentique en donnant une forme extérieure au respect que le caractère ne possède pas encore pleinement. Mais elle ne saurait suffire, puisqu'une personne peut rester parfaitement polie, tout en étant injuste ou cruelle. À autre extrémité, amour ne désigne pas seulement un sentiment romantique ni une préférence privée. Il constitue la forme la plus haute de bienveillance, celle qui rend possible la générosité, la douceur et le souci des autres sans calcul étroit. Entre ses pôles, la prudence. La tempérance, le courage, la justice, la gratitude, la tolérance, la compassion, la miséricorde, la bonne foi et humour répondent à des difficultés distinctes de l'existence. La structure du livre montre que la morale ne se résume pas à une opposition entre bons et mauvais individus. Elle comporte des degrés, des tensions et des apprentissages. Elle invite surtout à passer des convenances nécessaires à une transformation plus profonde de la relation aux autres. Troisièmement, la vertu comme force active dans un monde sans fondement transcendant. Comte-Sponville défend une morale qui ne dépend pas de l'existence de Dieu ni de promesses de récompense après la mort. Cette position ne conduit pas au relativisme selon lequel tout se vaudrait. Elle rend au contraire la responsabilité humaine plus directe. Si le bien ne existe pas en soi, il doit être fait. Les vertus sont alors les formes concrètes de ce travail. Elles incarnent des valeurs, non dans un ciel des idées, mais dans des corps, des choix, des habitudes et des institutions. L'inspiration spinoziste est ici importante. La vertu est pensée comme puissance ou excellence, non comme mortification. Être vertueux ne consiste pas à mépriser les désirs, mais à les ordonner de façon plus lucide et plus humaine. La tempérance, par exemple, ne condamne pas le plaisir. Elle refuse que le plaisir devienne servitude. La générosité ne exige pas de se nier soi-même. Elle cherche une puissance de vivre compatible avec celle des autres. Cette conception matérialiste donne une portée pratique à la morale. Elle ne demande pas de croire à une essence sacrée du bien, mais de reconnaître les effets de nos conduites sur la liberté, la dignité et la souffrance. Le livre soutient ainsi une exigence éthique ferme, tout en évitant le dogmatisme religieux ou le formalisme moral qui traiterait les individus comme de simples exécutants de règles. Quatrièmement, le discernement face aux conflits et aux faux visages de la vertu, une des forces analytiques du traité, tient à son refus de considérer chaque vertu comme bonne par elle-même. indépendamment de son objet et de son contexte. Une personne peut faire preuve de courage au service de la violence ou rester fidèle à une cause injuste. Ces exemples empêchent de transformer les vertus en étiquettes flatteuses. Le courage doit être lié à la justice, la bonne foi doit être distinguée de la naïveté et la tolérance ne peut devenir indifférence devant oppression. Cette attention au conflit donne au livre une portée politique et morale. Il ne suffit pas de défendre une qualité admirable en apparence, il faut évaluer ce qu'elle produit, ce qu'elle protège et ce qu'elle rend possible. La justice occupe donc une place structurante, car elle fixe une limite aux préférences personnelles et aux élans particuliers. De même, la prudence ne se confond pas avec la peur. Elle permet de mesurer les conséquences et les moyens d'une action. La tolérance ne signifie pas que toutes les opinions ou toutes les pratiques sont équivalentes, mais qu'elle refuse la haine et la persécution là où le désaccord demeure possible. Comte Sponville propose ainsi une morale du discernement plutôt qu'une morale de la pureté. Les vertus ne dispensent jamais de penser. Elles demandent de confronter les intentions aux effets, les convictions aux droits des autres et les principes aux circonstances réelles. En dernier lieu, une philosophie accessible fondée sur le dialogue avec les auteurs classiques, le livre se distingue aussi par sa manière de transmettre la philosophie. Chaque chapitre part d'une vertu identifiable dans la vie quotidienne, puis la met en discussion avec des textes et des problèmes hérités de la tradition occidentale. Aristote, les moralistes français, Spinoza, Kant, Nietzsche ou Freud nourrissent cette réflexion sans imposer un parcours universitaire préalable. Les références servent à préciser les distinctions entre sincérité et bonne foi, entre ironie et humour, entre amour de soi et égoïsme, ou encore entre pardon et oubli. Cette démarche rend le traité accueillant pour des lecteurs non spécialistes, tout en conservant une réelle densité argumentative. Elle explique aussi une limite souvent relevée par certains lecteurs abondance de références. Les formules marquantes et la longueur de certains développements peuvent demander une lecture lente. Le livre se prête mieux à la reprise régulière de chapitre K, une consommation rapide. Ce rythme correspond cependant à son objet. Les vertus ne sont pas des informations à mémoriser, mais des notions à mettre à l'épreuve de son expérience et de ses jugements. Le style clair de Comte Sponville ne simplifie donc pas artificiellement les problèmes. Il cherche plutôt à rendre partageable une conversation philosophique sur la manière de vivre sans réserver cette conversation aux spécialistes de l'histoire des idées. En conclusion, Petit traité des grandes vertus conviendra aux lecteurs qui souhaitent aborder la philosophie morale sans entrer immédiatement dans un traité académique ou dans un manuel de développement personnel. Il intéressera autant les personnes déjà familières de Spinoza, Aristote ou Montaigne que celles qui cherchent des repères pour réfléchir à la justice, au courage, à la fidélité, au pardon ou à l'amour dans la vie ordinaire. Son bénéfice principal ne réside pas dans une liste de comportements à appliquer. Il aide à mieux nommer les qualités en jeu dans les décisions, à distinguer des notions trop souvent confondues et à comprendre pourquoi une intention louable ne suffit pas toujours à rendre une action juste. Le livre peut donc soutenir une lecture personnelle, une discussion collective ou une initiation à éthique. Il se démarque des ouvrages moralisateurs par son refus de donner des leçons et des textes philosophiques purement systématiques par son attention constante aux situations humaines. Sa singularité tient à cette alliance entre ambition classique et langage lisible. Il réactive la question ancienne de la vie bonne dans un cadre laïque, matérialiste et humaniste. La place donnée aux tensions entre vertus évite les réponses mécaniques, même si le choix des 18 qualités porte la marque de son auteur. Comte Sponville fournit des outils solides pour exercer son jugement plutôt que pour adopter une doctrine toute faite. C'est pourquoi cet essai demeure une porte entrée durable vers une éthique de la responsabilité incarnée. Si vous souhaitez soutenir André Comte Sponville, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.